Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Michel Crépu, rédacteur en chef de la revue des Deux Mondes. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez, comme de coutume, maintenant nous présenter le prochain numéro de la revue des Deux Mondes. Il s'agit du numéro du mois d'avril. Alors le mois d'avril prend une place particulière dans la vie des Français puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle. C'est le dernier numéro qui aborde cette question présidentielle avant.
Oui, effectivement, puisque le numéro de mai paraîtra entre les deux tours, donc les dés auront roulé. Mais là, nous sommes en effet encore dans une période où les dés plutôt s'agitent dans le godet, et ça devient, comme vous l'avez remarqué, tout à fait passionnant. Mais le film n'est pas encore terminé. Mais il y a évidemment cette percée inattendue de François Bayrou, beaucoup plus importante qu'on ne l'imaginait, et qui redistribue les cartes d'une manière telle qu'elle nous oblige à réfléchir sur la scène politique française au-delà des simples conjonctures de sondages.
Vous écrivez dans votre éditorial sa candidature, il s'agit de celle de François Bayrou, sa candidature agit comme un révélateur, son écho est la preuve que les vieux fondamentaux de la scène politique française se fissurent, résistent mal à une mutation. Cette idée de mutation, c'est une idée que vous reprenez régulièrement.
Oui, je m'en rends pas compte d'ailleurs, parce que vous le soulignez, c'est ce qui prouve que vous lisez attentivement la revue, c'est bien, je vous félicite Christophe. Mais oui, alors le mot mutation est un mot un peu valise, hein, un peu passe-partout, je le reconnais bien volontiers, mais je dirais que je l'utilise là dans un sens somme toute assez évident, c'est-à-dire que nous sommes vraiment entrés dans un processus de plus que de renouvellement, mais de mutation. S'il ne s'agissait que de renouveler, nous aurions encore les mêmes comédiens, les mêmes, plus ou moins la même scène, alors que là, on voit bien que tout change. Le décor a changé. On ne peut plus parler de la France sans parler de l'Europe, ni parler de la mondialisation, même si on fait beaucoup d'efforts pour faire comme si de rien n'était. Et puis le personnel politique lui aussi change. Ça a été dans un premier temps le grand choc de l'investiture de Ségolène Royal, et puis dans un deuxième temps le surgissement. Le mot là est peut-être impropre, parce que François Bayrou, en réalité, est déjà un jeune vieux routier de la politique. Mais enfin, c'est la première fois qu'on le voit prendre autant d'importance. Donc le mot mutation me paraît pas, même s'il a un petit côté science-fiction mutant, enfin, n'exagérons rien, mais enfin tout de même, on est là, on entre dans un inconnu.
Alors il existe une vraie continuité hein, dans la revue des Deux Mondes. Vous évoquez toujours dans votre éditorial l'émergence d'un pôle de la social-démocratie. C'est une question que vous allez réétudier, la revue des Deux Mondes, prochainement.
Oui, on consacrera le numéro de mai. Alors là, c'est un peu un pari sur ce thème de la social-démocratie, mais je crois que il est là, effectivement, il est sur la table, ce thème, parce que à la fois du fait d'une grande faiblesse de la gauche, on le voit bien, enfin, la candidature de Ségolène Royal, même si, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce matin, un journal il y avait un sondage BVA L'Express qui la donnait finalement très en hausse. Oui, la faiblesse, d'une part, de la gauche qui ne répond plus, en tout cas a bien du mal à se donner un discours audible, et puis aussi un problème à droite. Il y a aussi un problème à droite. La candidature de Nicolas Sarkozy donne toujours l'impression d'un grand écart entre, d'un côté, un discours libéral pour une ouverture à l'espace de la mondialisation, du grand marché, et puis de l'autre côté, une difficulté avec la question de l'identité nationale. Donc là, il y a comme si on était, oui, vraiment dans une sorte de grand écart. Alors, Bayrou, est-ce que symbolise Bayrou à travers une possible émergence vraiment d'un créneau, un vrai créneau, un vrai espace social-démocrate en France? Il faut voir. C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Peut-être que tout ça va se redégonfler comme on l'a déjà vu. Mais La question est intéressante.
Alors, il existe une continuité dans l'avenir, mais il existe aussi une continuité par rapport au passé, puisque vous continuez à publier les états de la France. Mmh. Là, à l'occasion du numéro de février, il s'agissait de l'économie, des questions économiques. Le numéro de mars abordait, lui, la question sociale. Mmh. Et là, nous sortons un peu des sentiers battus de ces grands concepts, puisque les états de la France, hein, qui sont le résultat d'un colloque organisé par Le Figaro, se penchent sur la question opinion et consommation.
Juste une petite précision, ce n'est pas organisé par Le Figaro. Le Figaro est partenaire de ce colloque, mais en fait, c'est à l'initiative d'un groupe de chefs d'entreprise qui se sont lancés dans ce mini Davos, si vous voulez, qui voudrait être un rendez-vous annuel régulièrement. Mais le dossier est intéressant parce qu'il examine un petit peu les liens qu'il y a maintenant aujourd'hui entre la notion d'électeur et la notion de consommateur. Vous savez, on dit beaucoup, on l'entend beaucoup, que l'électeur serait quelqu'un qui finalement réagirait avec la politique comme il réagit avec les produits qu'il consomme en allant faire ses courses au supermarché. Et donc, la discussion est très intéressante parce qu'elle montre que, oui, il y a des liens et qu'on ne peut pas être trop schizophrène dans le maniement de ces catégories, et que d'un côté le citoyen et de l'autre le consommateur. Ces deux entités, en réalité, n'en font aucune, même s'il y a des courroies ou des passerelles internes. Je pense particulièrement à ce que dit Stéphane Rosès dans la discussion dont nous donnons la retranscription. Il évoque cette notion de contrat. Il parle d'un retour du contrat. L'électeur, finalement, ne marchant plus au demain en race gratis ou à l'utopie un peu chimérique, le contrat, c'est qu'est-ce que vous me proposez? Et quel va être le résultat et en quoi ça va m'intéresser. Donc, on voit bien qu'effectivement, dans cette dimension de contrat, il y a à la fois ce côté marketing qu'on peut tout à fait observer dans les comportements des gens au titre de la consommation, mais il y a aussi une demande d'efficacité, une demande de sérieux, une demande de résultat. Et là, je crois que c'est certainement une des raisons qui explique, en tout cas au début, ce qui a été le succès de Ségolène Royal, mais qui n'est peut-être pas fini.
Justement, il y a un personnage qui parlait des faits, de l'heure, de semblant sur cette société. C'est Jean Baudrillard, et vous lui rendez hommage dans votre journal littéraire.
Oui, mais oui, parce que Jean Baudrillard évoque d'abord pour moi un souvenir de vie estudiantine. C'était quelqu'un, alors, ma vie estudiantine, c'est les années 70. Et c'était une époque, au fond, qui était l'époque où était amorcée ce qu'on a appelé ensuite la fin des idéologies. Les grandes idéologies, le marxisme, idéologie aussi, j'allais dire, à caractère scientifique comme le structuralisme ou la psychanalyse, qui fonctionnait aussi comme idéologie, avaient amorcé au mi-temps de ces années 70 leur déclin. Et Baudrillard, je crois, était, et on l'a bien vu après, était un de ceux qui ont détecté très tôt les symptômes de ce déclin. Et ensuite, alors, ces travaux ultérieurs qu'on pouvait discuter, bien sûr, parce qu'il y avait chez Baudrillard à la fois le regard du sociologue qui étudie et possède ce génie de comprendre les attitudes de la collectivité. Donc, il avait ce regard du sociologue, puis il avait aussi un regard, je ne dirais pas d'écrivain, je ne crois pas que Baudrillard était un écrivain, mais il avait un regard très personnel qui était tout à fait connecté dans son esprit avec, j'allais dire, sa boîte à outils de sociologue, de philosophe qu'il avait été, qu'il est resté, mais avec, cette espèce d'intelligence du temps, de l'époque où nous étions, et surtout cette grande intuition, plus qu'une thèse, mais une intuition qu'il a développée de livre en livre, et qui consistait, en gros, je résume parce que c'est assez, assez sophistiqué, mais qui finalement consistait à dire que nous vivions maintenant dans un monde complètement hors référence, hors signe, hors sédiment, si vous voulez, qu'on était entré dans un univers de semblant, un univers de simulacre, où ce que l'on nous montrait à la télévision, principalement, parce que je crois que la télévision passionnait Baudrillard pour ça, tout se passait comme si la télévision avait absorbé le réel et qu'il n'y avait plus de réalité que celle qui était transmise par l'écran de télévision. D'où cette analyse qu'il avait donnée, qui avait beaucoup choqué. La guerre du Golfe n'a pas eu lieu lors de la première guerre contre Saddam Hussein, où il avait poussé à fond, si j'ose dire, cette hypothèse, cette intuition, qui consistait donc effectivement à dire mais cette guerre n'a pas eu lieu dans la mesure où c'est l'image qui est tout absorbée. Et évidemment, l'image n'a pas de chair. Dans l'image, on n'a pas ce contact avec le réel qui, naturellement, se produit dès qu'on, j'allais dire, on rentre à nouveau en contact avec le monde. Je regrette, mais c'est évidemment irrémédiable, j'aurais beaucoup aimé entendre Baudrillard aujourd'hui sur ce qui se passe en Irak ou dans d'autres domaines, enfin, de l'actualité. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il aurait développé aussi brillamment et aussi facilement, avec autant de désinvolture, j'allais dire, de désinvolture très brillante, cette thèse qu'il avait développée au moment de la première guerre du Golfe.
Bon, la question irakienne est abordée à travers un article de fond de François Bujon de Lestang, ancien ambassadeur. Oui. Nous renvoyons nos auditeurs à cet article qui vraiment aborde toutes les questions de la politique de Bush sur les 4-5 derniers mois. Je reste tout de même sur Baudrillard parce que vous en faites un personnage que l'on a envie de découvrir.
Oui, oui.
Il y a un dernier Baudrillard, ce que vous appelez le dernier Baudrillard, celui plus nihiliste qui tente d'exorciser les choses.
Oui, c'est... Je crois que Baudrillard était... Alors, il y a un livre de lui d'il y a une dizaine d'années qui s'appelle L'Amérique. Baudrillard aimait l'Amérique. En tout cas, l'Amérique, non pas l'Amérique que peut symboliser aujourd'hui le président actuel, Bush, mais plutôt l'Amérique des motels, une Amérique qui, finalement, était pour lui une illustration très concrète de cette absence, de ce monde sans référence. On construit une maison, puis ensuite on la détruit, on en construit une autre, 10 mètres plus loin. Vous voyez, ce côté très... profondément américain, qui fascinait Baudrillard, parce qu'il y voyait, encore une fois, la preuve concrète, malgré tout, de son intuition. Et le Baudrillard de la fin, oui, le dernier Baudrillard, peut-être était un peu séduit lui-même par ses propres intuitions. Il s'enchantait un peu de ne pas se lasser de décrire ce monde qu'il voyait décidément comme un monde totalement déréalisé, quoi. Un monde un peu magique, finalement, un monde d'effets, comme vous disiez tout à l'heure, de leurres, d'illusions. Alors, j'espérais, d'une certaine manière, parce que ça aurait été une forme de fidélité à lui-même, à son propre goût pour la subversion, j'espérais qu'un nouveau Baudrillard allait tout remettre en jeu et peut-être redonner droit à une certaine réalité qu'il voyait disparue. Mais on peut s'amuser aujourd'hui à l'imaginer, on n'en aura jamais la suite. Mais voilà, je crois que c'est quelqu'un qui a eu cette, sans en faire un gourou, si vous voulez, on entre facilement dans une fascination pour Baudrillard. Ça marche tellement bien, vous voyez, cette manière de décrire les choses, a l'air tellement juste, il a tellement l'air de dire la vérité de ce qu'on vit dans notre monde qu'il y a quelque chose de fascinant, donc il faut se méfier un peu. Je me souviens lui avoir dit comme ça qu'il y avait une chose qu'il oubliait dans ses magnifiques spéculations, c'était le petit détail, l'anecdote, la bizarrerie qui finalement est un peu au réel ce que sont les miettes qui restent d'un banquet qui a eu lieu. Peut-être oubliait-il un peu cette dimension de la miette et du détail qui traîne sous la table après un grand banquet, mais qui finalement est peut-être aussi importante que le banquet lui-même.
Alors, dernier point que je souhaiterais aborder, et finalement c'est le point principal de la revue. Hein. La revue porte en couverture le titre suivant, « Penser bâtir », vous offrez une grande réflexion sur l'architecture, notamment à travers un article de fond, d'Yves Bonnefoy, Poésie et architecture, qui est un article magnifique, comme on en lit peu aujourd'hui.
Oui, tout à fait, qui est en fait le texte d'une conférence que Yves Bonnefoy avait donnée à Rome en 2001 à l'occasion de la réception d'un docteur honoris causa pour lui. Et il a prononcé cette conférence qui avait été publiée sous une petite plaquette par un éditeur bordelais, William Blake & Co., et à qui j'ai demandé l'autorisation de reprendre l'application. Donc, ce texte, en effet, est une réflexion sur à la fois l'univers de la poésie qui a ses lois, ses rigueurs, qui a sa construction, et l'univers de l'architecture qui a toujours passionné Bonnefoy, notamment l'architecture baroque. puisqu'il a, il est l'auteur de ce livre magnifique, Rome 1630, qui est un des plus beaux livres qui existent sur l'architecture baroque. Et les articles qui suivent ce dossier, Penser bâtir, au fond, sont un peu dans le prolongement de ce goût pour l'architecture en tant qu'elle exprime une pensée. Enfin, j'ai trouvé original que nous ayons comme ça quelques exemples de réflexions qui associent le domaine de la poésie ou de la philosophie avec celui de l'expérience propre de l'architecte.
Eh bien, merci beaucoup Michel Crépu pour cette présentation. Je renvoie nos auditeurs au numéro donc du mois d'avril de la Revue des Deux Mondes, un numéro disponible dans tous les kiosques et dans toutes les librairies, ou également que l'on peut commander sur le site larevuedesdeuxmondes.fr. Merci beaucoup et à très bientôt. Restez à l'écoute de Canal Académie.